Et vous êtes sur Fréquence Mistral Gap. Aujourd'hui, nous accueillons, pour ceux qui écoutaient là, il y a quelques années de cela, eh bien, cette émission littéraire donnée par Litera 05. On marque un petit retour avec Anne-Marie Smith, avec là une date à noter sur vos tablettes. David Van, rencontre à la médiathèque qui se trouve Georges Pompidou sur le boulevard à Gap. Et ce sera ce mardi 29 mai, à ne manquer sous aucun prétexte, et ce, dès 18h. Alors, un auteur prolifique et un auteur qui a un univers particulier, Anne-Marie. On va un peu expliquer qui il est, pour ceux qui ne le connaissent pas, son œuvre, sa vie. Et puis, bien sûr, on va resituer ce rendez-vous.
Merci Vincent, je suis heureuse de retrouver Fréquence Mistral. C'est peut-être une porte entrouverte, sait-on jamais, vers d'autres émissions. En tout cas, merci à Vincent de nous donner cette plage horaire pour venir parler du prochain écrivain que nous allons donc recevoir, ce que vous disiez Vincent, le mardi 29 mai à 18h. Et quel écrivain, puisqu'il s'agit de David Van, moi ce que je considère comme un des meilleurs auteurs de sa génération, un écrivain américain. Et il a ceci de particulier, je vais vous le dire un petit peu plus loin, c'est qu'il a quitté l'Amérique. Il n'aime plus l'Amérique, si tant est qu'il ait aimé un jour. En tout cas, donc, il est né en 96, quelques mots sur sa vie, en 1966 en Alaska. Il y a passé une partie de son enfance, puis après il s'est installé en Californie. Il a travaillé très vite à l'écriture d'un premier roman, mais il n'y arrivait pas. Il y a travaillé pendant 10 ans. Et puis pendant 12 ans, il a cherché sans succès à se faire publier aux États-Unis. Aucun agent n'a accepté de soumettre le manuscrit parce qu'il le jugeait trop noir. Ses difficultés à faire publier son livre le conduisent vers la mer qu'il adorait. Alors il gagnera sa vie en naviguant pendant plusieurs années dans les Caraïbes, en Méditerranée. La mer, d'ailleurs, on la retrouve l'océan dans plusieurs de ses livres. C'est une de ses passions. Il propose alors Suck Van Island, un concours de nouvelles qu'il remporte, et pourtant ce ne sont que 3000 exemplaires qui seront mis sur le marché américain. Donc vous voyez déjà conflit entre lui et l'Amérique. Et il est publié en France en janvier 2010, ce sont les éditions Gail Master qui publient beaucoup des écrivains, de ce qu'on appelle les natural writers, qui écrivent beaucoup sur les grands espaces. Et donc, il le publie en janvier 2010, il remporte immédiatement un immense succès et il remporte le prix Médicis étranger et il s'est vendu en France à plus de 300 000 exemplaires. Donc 3 000 exemplaires aux États-Unis, 300 000 exemplaires en France. Porté par son succès français, David est aujourd'hui traduit en 18 langues dans plus de 60 pays. Voilà.
Alors maintenant, on va évoquer un peu son œuvre, hein, et combien de livres a-t-il écrit, cet auteur, David Van?
Eh bien, il en a écrit 7 hein, pour l'instant. Alors, on va faire un court résumé de ses romans publiés en France. Je pense que c'est la meilleure façon de vous donner une idée de qui il est. Hein. Donc, tous publiés chez Gallimaster et tous traduits par une nommée Laura Derajinski, qui a fait un travail énorme sur les livres de David Van. Je voudrais m'attarder un petit peu sur son premier roman, Suck Van Island. Tu l'as lu, je crois, un petit peu, Vincent, hein ? Oui. Et je m'attarde un petit peu parce que c'est vraiment le livre qui a marqué sa carrière et c'est le livre qu'il a lancé. Et c'est un livre vraiment particulier. Il raconte l'histoire d'un père et d'un fils partis pour un an vivre dans une cabane sur une île de l'Alaska. Le fils n'est âgé que de 13 ans et il n'avait pas du tout envie de venir, mais il sait que son père est assez fragile, donc il a accepté. Mais il est là vraiment contre son gré. Parce que son père, c'est un homme qui a vraiment tout raté, ses amours, ses boulots, etc. Il trouve bien entendu des éléments très hostiles. On est en Alaska. Au départ, il pleut beaucoup. Après, ce sera la neige, le froid. Je vous lis juste un petit passage. Il entendait la pluie de toutes parts comme un tissu sonore qui supplantait tous les autres bruits. C'était la seule odeur aussi. Même lorsqu'il détectait l'arôme de la terre ou de la mer, les parfums dont il imaginait qu'ils étaient ceux des fougères, des orties et du bois pourri, ils faisaient partie intégrante de l'odeur de pluie. Ils se rendaient compte qu'il en serait ainsi la plupart du temps. Les journées ensoleillées qu'ils avaient eues jusqu'ici avaient été inhabituelles. La pluie dense et le monde qu'elle emprisonnait étaient tout ce qu'ils connaîtraient. Ce serait désormais leur foyer. On peut imaginer à une cabane en rondin, la pluie et la pluie qui dégoutte à l'intérieur de la cabane, enfin des éléments hostiles. Il y a aussi à un moment, il y a même un ours qui vient leur démolir toute leur cabane et manger tout leur vivre. Enfin voilà, donc une vie très très difficile et pour un gamin de 13 ans. Et à partir de là, les relations père-fils deviennent absolument épouvantables. On se rend compte que le père, en fait, n'a pas du tout préparé cette aventure. C'est vraiment de l'improvisation quasi totale. Alors les catastrophes, bien entendu, arrivent les unes après les autres. Et par exemple, pour manger, au départ, ils n'ont pratiquement rien à manger. Et puis, ils trouvent un endroit où il y a beaucoup de saumon. Alors, ils pêchent du saumon tout le temps. Et le père devient de plus en plus dépressif. Il passe son temps à appeler par radio la femme qu'il vient de quitter. Son fils aussi voudrait rentrer, mais il a un peu pitié de son père. Voilà. Parce que les relations entre tous les deux sont marquées un petit peu par une culpabilité hein, et une incompréhension absolument, une incompréhension mutuelle entre les deux. On sent, nous, lecteurs, que tout se terminera mal. Et finalement, je ne vais pas du tout vous dire la suite, bien entendu, parce qu'il y a un coup de théâtre. Tout se termine mal, mais de manière encore pire qu'on ne pouvait l'imaginer. En fait, ce livre s'inspire du suicide de son père, David Van. Son père donc, s'est suicidé alors qu'il avait 13 ans et il s'est senti très longtemps coupable. C'est pour ça qu'il a écrit ce livre, parce que son père lui avait demandé de venir avec lui dans une cabane, justement en Alaska, ce qui se passe dans le livre, et il avait refusé. Et 15 jours après, son père se suicidait. Donc il s'est senti vraiment coupable. Il a dit qu'il a mis 20 ans à se débarrasser de cette culpabilité. Il nous explique « Son geste a été dévastateur. Nous aurions pu deviner qu'il n'allait pas bien, qu'il détestait son métier. Il était dentiste. Qu'il avait tenté de devenir pêcheur en Alaska comme il en rêvait depuis toujours. Mais que cela s'était terminé avec un naufrage, des dettes colossales, des ennuis de santé, des infidélités, un divorce lorsque j'avais 5 ans et un remariage. Mais de là à commettre un tel acte, et puis il poursuit, un jour, il m'a demandé de venir passer l'hiver avec lui, là où il vivait isolé dans une cabane rustique en Alaska. J'ai refusé. 2 semaines plus tard, il se tirait une balle dans la tête en direct au téléphone avec sa deuxième femme. J'ai longtemps pensé que si j'avais dit oui, il serait encore en vie. » Voilà, vous avez déjà un aperçu de ce que seront les livres de David Van, des livres où la violence, je dirais, est omniprésente, des livres très très durs. Il y en a d'ailleurs qui lui reprochent cette dureté. Son deuxième livre, je ne m'attarde pas longtemps, c'est un livre, il s'appelle « Désolation », qui a été publié en 2011. En anglais, c'est « Caribou Island ». Cette fois-ci, ce n'est pas les relations père-fils, ce sont des relations en couple, un couple qui est en crise, qui eux aussi s'installent dans une cabane sur un îlot désert en Alaska. Et alors là aussi, l'affrontement avec la nature va être terrible. Elle va véritablement les briser. Parce que bien souvent, chez David Van, la nature est très hostile. Elle n'a rien vraiment de salvateur. Voilà, désolation. Le titre est bien, dit bien ce qu'il veut dire, je dirais. Un troisième roman, Impur. Cette fois-ci, on n'est plus en Alaska, on est sous le soleil californien, un soleil suffocant. Une maison perdue au milieu des bois, une famille où règnent les femmes et où s'accumulent les rancœurs. Mais avec elle, au milieu d'elle, il y a un jeune homme de 22 ans, à l'esprit torturé, qui va véritablement vivre une descente aux enfers. Donc vous avez compris qu'après tous ces 3 premiers romans, c'est la thématique de l'explosion de la famille, de la cellule familiale que David Van a abordé dans beaucoup, beaucoup de ses livres. Goat Mountain, en 2014, Goat Mountain, la montagne de la chèvre. Alors là, il va aborder un thème, toujours la famille, mais avec un thème particulier, le thème des armes. Le roman se passe à l'automne 78, C'est l'ouverture de la chasse au nord de la Californie. Quatre personnages partent pour un week-end de chasse à travers leur immense domaine. Le grand-père, le père, le petit-fils, encore un enfant, il y a toujours un enfant chez David Vann, le petit-fils qui a 13 ans, et un ami. Le gamin rêve de tuer son premier cerf parce que la tradition veut que ce soit un passage obligé pour devenir un homme. Tu tues ton premier cerf, tu manges le cœur et le foie sur place, tu le dépèces et à partir de là, tu es un homme. Et c'est ce qu'ils veulent faire pendant ce week-end. À leur arrivée, le père découvre un braconnier à travers la lunette de son fusil. Invité par son père à regarder, l'enfant prend le fusil et l'irréparable se produit. Il appuie sur la gâchette et l'homme est tué. En une seconde, on a vraiment un changement terrible, je dirais, dans le livre. Les liens entre les quatre personnages explosent véritablement. Leur humanité vole en éclats. Et ce sont les instincts qui refont surface. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce cadavre qu'ils ont sur les bras, cet enfant qui normalement devrait être complètement anéanti par le geste qu'il a eu? Eh bien, ce qui est terrible, c'est qu'il devient complètement inapte à ressentir quoi que ce soit pour l'homme qu'il vient de tuer. Alors pourquoi? Est-ce que vous allez le découvrir, bien entendu, voir un petit peu ce qui se transmet entre les générations. Ça devrait être des valeurs. Il y en a des valeurs, bien entendu. Mais c'est beaucoup le goût des armes, le goût de la violence, le goût du sang. Alors, bien entendu, on pense immédiatement à ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, encore la semaine dernière. Parce que, justement, un petit peu plus loin, on va parler justement des armes aux États-Unis. Alors pour tous ces livres, vous avez compris qu'il a puisé dans son histoire familiale, une histoire tragique où il y a eu de nombreux suicides. On a parlé du suicide de son père, mais il y en a eu d'autres. Des échecs, des mensonges, des tromperies. Il y a eu même un meurtre. Il nous dit « J'ai puisé dans les souvenirs de ma famille, 11 femmes et un homme, enfin 2 quand mon père était encore en vie, avant qu'il ne mette fin à ses jours. » Un grand-père violent donc, qui maltraitait physiquement ma grand-mère. Une brute. Un père qui a foiré 2 mariages pour cause d'adultère avant de se suicider. Je peux avouer sans mentir que j'ai eu du mal à construire mon identité d'homme. Et ce terreau familial, qui est à l'origine donc de ces bouquins, il en a fait des romans un petit peu construits comme des tragédies grecques. Il le dit d'ailleurs, où les personnages, il y a une forme d'amour entre eux, mais inconsciemment, ils se font toujours du mal. C'est comme une fatalité qui pèse sur eux, la fatalité que l'on trouve beaucoup dans la tragédie antique. D'ailleurs, après le suicide de son père, David Vann a ressenti comme une malédiction qui pesait sur lui. Il pensait qu'un jour ou l'autre, c'était obligé, lui-même se suiciderait. C'était comme une fatalité. Et c'est en écrivant, justement, qu'il a pu se libérer de son sentiment de culpabilité. C'est la fameuse catharsis théâtrale qui doit libérer l'écrivain et le lecteur. D'ailleurs, David Vann, après le suicide de son père, a fait du théâtre et c'est ce qui l'a sauvé. Il nous dit « C'est l'art qui m'a sauvé. Toute expression artistique nous permet de transformer les tragédies de nos vies et de ce qui est cassé en nous pour en faire quelque chose de positif. » That you knew me when I was hungry, and it was your word. I take just like a woman. Yes, I do, and I make love just like a woman. Just like a woman, but I break just like a little girl.
Et de retour avec cette émission spéciale, David Van, qui sera présent à Agape, à la médiathèque, ce mardi 29 mai, 18h. Et nous allons évoquer dans cette deuxième partie un autre thème qui est assez récurrent et qui lui est cher dans ses œuvres. C'est l'arme, les armes aux États-Unis. Anne-Marie Smith.
Oui, les armes que l'on a déjà un petit peu évoquées avec Gout Mountain. Le goût des armes. Il a d'ailleurs écrit en même temps que Gout Mountain un autre livre dont je vais vous parler. David Van véritablement a grandi avec les armes. Je vais vous révéler quelque chose dont il nous parlera sans doute, qu'après le suicide de son père avec une arme à feu, qui s'est suicidé donc au téléphone avec sa femme au bout du fil, alors que David donc avait 13 ans, sa famille a cru bon de lui léguer tout l'arsenal de son père. Et ce n'était pas des petites carabines, hein, c'était des armes avec lesquelles son père tuait les ours, les cerfs, etc. Il avait tout un arsenal et c'est David qui en a été l'héritier. D'ailleurs, pendant 2 ans, il a utilisé ses armes. Alors, il tuait les oiseaux, il essayait d'attraper un poteau, par exemple. Vraiment, il s'est mis à aimer les armes et à tirer avec les armes. Et puis un jour, il a été révolté par la souffrance d'un cerf qui venait de blesser et à qui on lui a imposé de l'achever. Et à partir de là, il a refusé de continuer à chasser. Ça a été vraiment le déclic. Et plus tard, donc, il a essayé de lutter contre le lobby des armes à feu aux États-Unis. Hein, on sait ce qu'il en est. Mais très vite, il s'est rendu compte que c'est un combat perdu d'avance. Et c'est pour cette raison qu'il a quitté les États-Unis, où le lobby des armes l'appelait le diable. Le diable. Donc il a écrit donc 2 livres sur le thème des armes à feu, Gout Mountain et Dernier jour sur Terre. Dernier jour sur Terre n'est pas un roman, c'est un récit. C'est le récit d'une tuerie dans une université américaine. Une tuerie qui s'est réellement passée. Il y en a tellement eu qu'on ne sait plus laquelle c'est. C'est un récit, donc, en 2008, un homme de 27 ans tue 5 personnes et en blesse 18 dans une université américaine. Il nous fait, avec son livre, plonger véritablement dans l'esprit du tueur pour essayer de comprendre son geste. Il s'est énormément renseigné. Le FBI a accepté de lui donner un dossier de 1200 pages pour essayer, qu'il a décortiqué pour essayer de comprendre comment ça se fait qu'un homme de 27 ans arrive à rentrer dans une université et à tirer sur tout ce qui bouge. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il met en parallèle son parcours à lui, justement, lui qui a reçu à 13 ans les armes de son père, hein, pour justement se libérer de son héritage et ne pas devenir un tueur. Parce qu'il dit, moi, j'aurais pu très bien faire exactement comme cet homme de 27 ans, devenir un tueur, puisque on m'avait initié aux armes. Alors, on connaît le problème des armes aux États-Unis, hein, puisqu'il y a quelques jours seulement, une nouvelle tuerie a eu lieu dans un établissement scolaire. On parle beaucoup des tueries dans les établissements scolaires. Vous vous rappelez à Parkland, en Floride, en février. Je parle simplement de ceux qui ont eu lieu en 2018. 17 morts, 14 blessés. Au Texas, il y a quelques jours, 10 morts, 10 blessés. Mais il y a aussi bien d'autres drames qui sont liés aux armes à feu. Je vous donne juste 2 chiffres. En 2017, il y a eu près de 16 000 morts dues à des armes à feu et 30 000 blessés, dont 732 enfants et 3234 adolescents. Voilà, et David Van en veut énormément parce qu'il dit que c'est l'Amérique qui est responsable de tout ça. Et bien sûr, bon, je ne vais pas essayer de trouver des explications, bien entendu, mais je pense qu'il n'a pas tort quand il dit « Les États-Unis sont une zone de guerre depuis des années à cause de ça ». Voilà donc le problème des armes sur 2 livres, Gout Mountain et Dernier jour sur Terre. Son avant-dernier livre, c'est Aquarium, écrit en 2016. Ça se passe à Seattle en 1994. Encore une enfant, une fille cette fois-ci, Kathleen, 12 ans, qui est la narratrice. Elle vit seule avec sa mère chérie dans une banlieue triste et pauvre de Seattle. Chaque jour après l'école, en attendant que sa mère, qui est grutière sur le port, Ça vous donne une idée un petit peu de la misère de la famille. Donc en attendant que sa mère la récupère, elle se rend à l'aquarium de sa ville pour y contempler la vie marine. C'est un monde qui véritablement la fascine. Tous les jours, elle y va. Et un jour, elle y fait la connaissance d'un vieil homme avec lequel, au début, elle parle de poissons des heures durant. Alors la question est, qui est ce vieil homme qui vraiment s'accroche à elle? En fait, c'est un homme qui va révéler des secrets enfouis de sa famille, qui va déclencher un terrible règlement de compte. Je ne vous en dis pas plus, simplement que Kathleen va connaître véritablement les déchirements que sa famille a vécu dans le passé. C'est encore une famille qui vole en éclats, une fois encore. Oui, les personnages touchent véritablement le fond de la souffrance, mais à l'inverse des autres romans de David Vane, ils vont pouvoir remonter pour reconstruire ce qui a été détruit. Il y a du pardon dans ce livre, même s'il n'est pas parfait, bien entendu, il y a du pardon, et grâce à la petite fille. C'est la petite fille qui emmène sa mère sur le chemin du pardon. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est le rôle d'un enfant de montrer à sa mère le chemin du pardon? En tout cas, c'est ce qui se passe là. Alors avec ce livre, on se pose la question, est-ce que David Vane aurait trouvé une forme d'apaisement? Peut-être, on lui demandera, on lui posera la question mardi. Et enfin, son dernier roman, alors qui est tout à fait particulier cette fois-ci, L'obscure clarté de l'air, 2017. C'est un livre sur Médée, à qui il va donner une voix. Médée, le personnage de la mythologie grecque. La légende de Médée, vous vous rappelez Jason, les Argonautes, la toison d'or, etc. Le roman commence à bord de l'Argo, le navire. Jason et Médée, Jason le mari de Médée, sont poursuivis par son père après le vol de la toison d'or et le meurtre de son frère. David Vane ne fait pas avec ce roman une adaptation contemporaine. Il place l'histoire carrément au temps de Médée, il y a 3500 ans. Il n'en fait pas une magicienne, comme on la présente normalement, mais une femme assoiffée de pouvoir qui veut rester maître de son destin. Et pour cela, elle sait qu'il faut qu'elle brise les règles et qu'elle refasse d'autres règles à sa façon. En fait, elle veut refaire le monde, elle veut décréter qui sont les dieux, elle veut elle-même devenir reine, hein, parce qu'elle veut se faire adorer. Et en fait, David Vane veut montrer par ce livre que rien n'a vraiment changé, je dirais, depuis le début du temps, que la nature humaine est constante, parce que c'est un livre avec énormément de violence. Je vais vous en lire un tout petit passage, si j'ai le temps. Avec énormément de violence, et David Vane pense que dans notre monde contemporain, il y a toujours autant de violence, autant de crimes, autant de sacrifices au nom de Dieu, on peut le dire, bien entendu, qu'on en trouve dans les textes anciens. Alors pourquoi il a choisi le personnage de Médée? Parce que quand il était un petit peu plus jeune, il a participé à une expérience proposée par un archéologue. Ils ont construit un navire comme il en existait dans l'Égypte antique. Ils ont navigué sur la mer Rouge avec David Vane aux commandes. Et c'était comme une remontée dans le temps jusqu'aux Argonautes et au personnage de Médée dont le mythe l'obsédait. Et c'est à partir de là qu'il a eu envie d'écrire un livre sur la mythologie égyptienne, plus spécialement sur le personnage de Médée. Voilà, Médée, une femme libre, une femme insatiable qui veut, comment dire, c'est un petit peu la féministe de l'époque, hein, je crois, la féministe de l'époque. Voilà. Je voulais vous lire un passage pour vous montrer ce qui est absolument particulier dans ce livre, c'est l'écriture de David Vane. Il explique qu'il est allé traduire de l'anglais ancien pour arriver à trouver un rythme, une écriture particulière. Je vous lis juste le départ. Donc, ils sont sur la mer, Médée est sur un bateau avec Jason, et leur père, le père de Médée, les poursuit sur un autre navire. Son père, un visage doré dans la pénombre, apparaissant à la lueur des torches au-dessus de l'eau, puis s'éclipsant à nouveau, le visage du soleil, un descendant du soleil, trahison et rage. Quatre plumées le long de son masque, une dispersion de lumière, une sorte de crinière. son bouclier de maintes potanées, une obscurité creuse, sa lance grise, une ligne mince puis disparue, la voile au-dessus de lui gonflée comme la panse d'un bœuf devenu aussi immense qu'un dieu, ses sabots évoluant dans l'eau sans émettre le moindre son. Rien ne l'arrêtera, Médée le sait, il a trop perdu. Elle ne peut que le ralentir. Elle se baisse et saisit un morceau de son frère, un avant-bras puissant et étrangement doux, refroidissant déjà, et elle le laisse tomber à la mer, presque sans un bruit, englouti par les éclaboussures des rames. Voilà, je ne vais pas plus loin. Elle a tué son frère et elle l'a coupé en morceaux, elle l'a démembré, et elle jette de temps en temps un morceau à la mer pour que son père, qui est dans un autre navire, récupère les morceaux de son fils. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était un style très, très abrupt, un petit peu comme les personnages qui sont là. D'ailleurs, dans le premier paragraphe, il n'y a même pas un verbe conjugué. C'est rien que des noms qui sont jetés comme ça. Voilà quelques repères de l'œuvre de David Vann, un écrivain américain qui adore la France. Il est là d'ailleurs depuis quelques temps. Il a été invité à de nombreux festivals, à Saint-Malo par exemple, les étonnants voyageurs, à Marseille, aux Les Beaux Jours. Il est à Marseille pour une résidence d'auteur. Et je crois qu'à Gap, on a beaucoup de chance de pouvoir l'accueillir d'accueillir un écrivain de cette envergure. Je veux juste ajouter que c'est grâce au foyer culturel veynois avec qui nous sommes en partenariat que nous avons pu avoir David Vann avec nous. À bientôt, merci.
Merci Anne-Marie de Littera et à ne manquer donc sous aucun prétexte. Précipitez-vous à la médiathèque de Gap ce mardi 29 à 18h et on se retrouvera probablement pour un nouveau chapitre avec Anne-Marie. À bientôt.